L'avenir de la nouvelle de SF, y a-t-il une métamorphose à l'horizon? Y a-t-il de nouveaux thèmes? Y a-t-il de nouvelles façons de faire? Et j'ai la chance d'avoir rassemblé sur cette estrade un certain nombre de gens qui écrivent des nouvelles, de novellistes, qui bon, ont été remarqués et couronnés par le Grand Prix de l'Imaginaire à peu près tout systématiquement. Vous avez vraiment un échantillon représentatif du Grand Prix de l'Imaginaire à cette table. Complètement à droite, j'ai Jeanne A. Debat, dont dite Draco pour un certain nombre d'intimes, dont la novella la vieille anglaise et le continent, paru aux éditions Griffes d'encre, fait partie des finalistes du Grand Prix de l'Imaginaire de cette année, et qui est un texte qui a été remarqué, on peut dire, dès sa sortie, et pas seulement pour sa magnifique couverture. À côté, j'ai Sylvie Lenné, dont le deuxième recueil aux éditions Les Trois Souhaits vient de sortir. Les éditions Les Trois Souhaits, c'est juste à la sortie le bloc de deux tables avec un certain nombre justement de recueils de textes. C'est-à-dire c'est un éditeur qui fait majoritairement de la nouvelle, qui fait un travail tout à fait excellent et remarquable sur ce travail-là. Donc Sylvie a publié deux recueils chez cet éditeur, mais a publié une vingtaine de nouvelles et collectionne les prix Ronnie, les Grands Prix de l'Imaginaire et les triplés, puisqu'il lui est arrivé d'avoir la même année le Grand Prix de l'Imaginaire, le prix Ronnie et le prix du lundi pour un même texte. Juste à côté de moi, j'ai Catherine Dufour qui est en train de griffonner. Qui vient de sortir en particulier un recueil de ses nouvelles qui s'appelle L'accroissement mathématique du plaisir au Bélial, recueil que je vous recommande et qui rassemble un certain nombre de textes et surtout un ensemble de trajectoires qui donne d'un écrivain une vision tout à fait fascinante. Ce recueil a été rassemblé et compilé par Richard Combalot qui a fait, comme souvent, un excellent travail. Et juste à côté, arrivant avec une dextérité confondante, Xavier Mauméjean, qui a lui aussi publié un certain nombre de nouvelles dans divers supports, dont Bifrost, dont une nouvelle qui a gagné, si mes souvenirs sont exacts, un certain nombre de prix. Tu n'as pas gagné de prix, toi ? C'est un scandale, mais que faites-vous ici, monsieur ? Oui. Et qui, par contre, Xavier, a aussi publié un certain nombre de romans et qui a fait la rentrée littéraire avec Lilliputia cette année, qui est un livre qui te vaut quand même une reconnaissance assez impressionnante. Voilà.
Oui, je tenais à préciser qu'il est totalement injuste que Xavier Mauméjean n'ait jamais eu de prix, notamment pour la nouvelle que je vous recommande, qui s'appelle La fin du monde, qui est la meilleure nouvelle de SF des 10 dernières années, et qu'on trouve dans un numéro de Bifrost, mais je ne sais plus.
Oui, c'était à cette nouvelle que je pensais. J'étais totalement persuadé, tu m'excuseras, qu'elle avait été couverte de prix. Et bon, en tout cas, elle le mérite. Il s'agit d'un de ces textes provenant d'un univers alternatif où les prix n'ont pas été donnés aux bonnes personnes. Ce n'est pas chez nous que ça arriverait. Bon. Et le thème que nous nous sommes posé donc pour ce débat, puisque nous avons eu la chance d'en discuter un petit peu entre nous auparavant par mail, c'est de nous dire, compte tenu qu'il y a un siècle que la science-fiction, grosso modo, fait de la nouvelle à tout azimut, y a-t-il un renouvellement du genre ? Y a-t-il surtout un renouvellement des façons de raconter, des thèmes, de l'approche du public vis-à-vis de la nouvelle ? Et est-ce qu'on attend toujours la même chose d'une nouvelle de science-fiction ? Ou est-ce qu'au contraire, les auteurs ont envie d'écrire autre chose ? Alors cette question-là, est-ce qu'on fait la même chose qu'avant, mais avec nos propres idées ? Ou est-ce qu'on se lance dans des expérimentations absolument extraordinaires ? Eh bien tiens, je vais commencer justement par Xavier, qui a fait un texte avec La fin du monde, qui était en fait une espèce d'expérimentation tout à fait merveilleuse d'une idée que jamais personne avant toi n'aurait pu essayer de faire.
Oui, ben en fait, dans cette nouvelle particulière, j'avais envie de mettre en scène un événement qui soit extrêmement optimiste, une sorte de paix universelle reconduite régulièrement, mais par le fait d'un unique sacrifice qui était la consommation littérale d'un être humain par l'ONU, donc Conseil de sécurité, manger un être humain, qui était volontaire, qui était heureux de le faire, et qui était accommodé par les plus grands maîtres cuisiniers de la planète, qui devenaient donc des acteurs politiques de premier plan. Par exemple, ils étaient amenés, ces cuisiniers, à régler des conflits avec comme enjeu leur vie, leur existence, s'ils ne réussissaient pas. Alors, ce qui m'a plu dans le thème, c'était de faire quelque chose d'aussi simple que aborder quelque chose qui est indéfendable, l'anthropophagisme, dans une société occidentale évoluée, par le biais d'une nouvelle. Alors, d'une nouvelle, pourquoi ? Parce que la longueur du texte n'aurait pas prêté à la brutalité, à l'espèce de calme extrêmement glacé qui devait s'étendre tout au long du texte et qui n'aurait pas tenu une certaine longueur. Et puis, il y a aussi des thèmes, je pense qu'on en reviendra tous, qui ne peuvent pas être traités soit en roman, soit en nouvelle, ou alors qui appellent, ça m'est arrivé, des variations, des digressions. Par exemple, aborder un même thème avec un même titre, les mêmes personnages, sur la longueur d'un roman ou sur la longueur d'une nouvelle. Mais ça, c'est autre chose, je pense.
Justement, est-ce que le fait d'aborder un sujet comme celui-là dans le cadre d'une nouvelle n'oblige pas à ce que l'idée soit la plus aiguisée, la plus pointue, avec le moins de gras possible ? Et est-ce que, par exemple, je me tourne vers Sylvie Lainé, est-ce que ce n'est pas ton envie à toi d'écrire les choses les plus nues et les moins grasses possibles ? Et c'est pour ça que la nouvelle reste quand même ton univers privilégié ?
Moi, ce qui m'intéresse dans la nouvelle, c'est pas que j'ai vraiment le choix, contrairement à une bonne partie des auteurs ici présents, parce que je ne sais écrire que des nouvelles, donc c'est pas vraiment un choix. Mais c'est une forme qui m'intéresse parce que je repensais à la conférence, une des premières conférences qui a eu lieu ici, où Richard Morgan disait que les auteurs de science-fiction sont soit des pionniers qui défrichent des terres inconnues avec des expérimentations assez nouvelles, soit des colons qui finalement continuent l'occupation d'un territoire dont on a déjà un petit peu tracé les contours et s'y sentent bien et produisent dans un cadre qui existe. Et je me disais, finalement, c'est très facile d'être un pionnier quand on écrit sur la longueur de la nouvelle, parce que finalement, à chaque fois, on fait une expérience, on fait quelque chose d'inédit. Et je pense que, par contre, pour tenir sur la longueur du roman, on est obligé de travailler dans un cadre, dans une direction, sur un principe qu'on est obligé de clarifier pour tenir la longueur. Enfin, je parle peut-être un peu en technicien de l'écriture ici, mais qu'il est très, très difficile et réservé à très peu de gens de pouvoir faire quelque chose d'innovant et d'expérimental sur la longueur d'un roman. Alors que sur la nouvelle, finalement, ça s'y prête très bien, il me semble.
Justement, Draco, toi, tu as fait le phénomène médian, c'est-à-dire tu as écrit ce qu'on appelle une novella, c'est-à-dire une nouvelle, mais d'une certaine amplitude, puisque ça fait un seul livre, en fait. Donc c'est un roman très court ou une nouvelle très longue. Et est-ce qu'il y a des contraintes particulières à l'échelle des textes de ce genre ?
En tout cas, dans la vieille anglaise, oui. Il y a une alternance de récits. Oui. Ça marche ?
Oui.
Hein ? Il y a une alternance de récits que je pouvais effectivement tenir. Tenir sur les 70 pages de la vieille anglaise, qui n'aurait pas été valide sur 250 pages, ça aurait fatigué le lecteur. Par ailleurs, le ping-pong aurait été peu intéressant, finalement. Alors que tout le travail que j'ai fait autour du temps et des deux trames narratives dans ce récit était tout à fait gérable sur 70 pages. Je n'ai pas envisagé une minute ce récit sur une longueur plus conséquente, parce que ça se justifiait totalement. De toute façon, la nouvelle, pour moi, c'est un terrain d'expérimentation stylistique, de forme, de temps de narration, de style, que je ne vais pas forcément réutiliser sur une forme longue. C'est là qu'on joue. C'est vraiment le jeu, pour moi, la nouvelle.
Tu le considères, toi aussi, le jeu, Catherine, ou tu... Bon.
C'est quoi la question ?
Est-ce que tu considères aussi que la nouvelle est un terrain de jeu ?
Oui. J'ai sorti un recueil, l'accroissement mathématique du plaisir. Il y a pas mal de nouvelles où j'ai testé un certain style. Par exemple, il y en a une. Ce qui m'amusait, c'est le jardin de Charlotte. Non, Rhume des foins. Ce qui m'amusait, c'est d'essayer d'utiliser un vocabulaire très coloré et très charnu. Franchement, j'aurais pas infligé ça à qui que ce soit sur un livre entier, quoi. Mais sur quelques pages, ça permet de tester. Il y en a une autre, c'est Mater Clamorosum. C'est à la manière des contes bretons. C'est assez erratique, c'est assez pseudo-folklorique. Je la trouve très jolie sur quelques pages, mais sur 500 000 signes, c'est impossible, quoi. C'est beaucoup trop lourd. Et il y a souvent enfin des styles qui sont très, très percutants sur une courte distance, et dès qu'on essaie de les transposer au roman, on arrive à quelque chose d'extrêmement étouffe-chrétien.
Tu as dit quelque chose, Draco, qui était intéressant, qui était le travail de gestion du temps. Et le cas particulier d'une nouvelle permet effectivement de faire une expérimentation sur la durée subjective d'un texte. Il y a des nouvelles qui se déroulent sur quelques secondes. Il y a des nouvelles, je dirais, dont le temps réel du récit est pratiquement nul, ou au contraire s'étend sur des périodes absolument gigantesques avec un étirement époustouflant. La nouvelle, c'est un endroit pour moi où on peut aussi casser tout un tas de, je dirais, d'éléments en petits morceaux et mietter. Alors que dans un roman, on essaie autant que possible que les personnages vivent à un rythme à peu près régulier et où on peut les suivre assez facilement. Dans une nouvelle, étant donné que c'est court, on peut très bien faire des sauts de plusieurs milliers d'années entre des paragraphes ou au contraire des sauts d'une fraction de seconde. On a des nouvelles qui ressemblent à une page de manga où la durée effective de la page de manga, c'est une demi-seconde. Vous voyez ? Donc est-ce que ce jeu-là, ce travail d'éclatement sur le temps, est-ce que ça entraîne des façons de raconter, des idées qui sont étirées autrement que dans le temps, puisqu'une idée, normalement, quand c'est une séquence, c'est des choses qui se succèdent, donc c'est du temps. Est-ce que c'est de la juxtaposition? Est-ce que c'est de la géométrie? Est-ce que c'est de l'art? Comment est-ce que vous arrivez à jouer à ça? Toi, Catherine, t'as beaucoup joué à ça.
Ah bon?
Merci. Se rappeler de toujours inviter Catherine Dufour dans un débat, parce que ça aide énormément, je trouve. Qu'est-ce qui a envie de répondre à ça, ou est-ce que c'est une très mauvaise question?
Ben moi, j'ai deux exemples. Par exemple, dans mon dernier roman, Lilliputia, je voulais, je parle bien de roman, je voulais décrire la fraction de seconde qui suit la mort de quelqu'un. C'est cette espèce de linéament de conscience qui reste, mais pendant une fraction de seconde. Et j'ai interrompu la narration linéaire du roman pour en faire une nouvelle. C'est-à-dire que ce chapitre a été effectivement traité comme une nouvelle. C'est un début, un milieu, une fin. Il est traité vraiment comme un tout, parce que justement, c'était le seul moyen de saisir ce que tu appelles le temps subjectif à l'intérieur du temps de la narration, qui est le temps du roman. Et dans un autre exemple aussi qui me vient à l'esprit... J'avais écrit une petite uchronie pour Bifrost, où j'imaginais que Alain Delon en Indochine s'était crevé un œil, ce qu'il a failli faire. Et donc j'imaginais qu'il ne peut pas faire de cinéma. Et à partir de là, Visconti engage Tony Curtis dans le rôle du léopard, se plante parce qu'il a l'accent de Brooklyn, ce qui fait que Visconti crée les Brigades Rouges. Enfin, il y a tout un enchaînement comme ça du fait de... Et justement, je pouvais le traiter comme c'est une aventure sur la longueur, par fragments. Et donc, j'ai utilisé cette espèce de temps subjectif dont parle Jean-Claude, qui est simplement des micros extraits de lecture, d'articles, de journal personnel, de reportages sur Alain Delon, etc. Et comme il n'écoute pas, il va se faire avoir, là.
Je partage totalement ce qu'il vient de dire.
Ah bon?
Donc je disais qu'il faut répondre les auteurs les uns les autres, parce que c'est pas tout passé par moi.
Alors moi, ça va là, je parle suffisamment fort. Moi, il y a une chose qui m'étonne en tant que lectrice, c'est qu'on exploite très mal la nouvelle, à mon avis, alors qu'elle devrait être en phase complète avec les attentes de notre société, où on va très vite, où on fait des trajets en métro, où on veut lire quelque chose pendant la durée du trajet, où on a un Walkman sur les oreilles et on écoute un ou deux morceaux, enfin, non, pas un Walkman, c'est vieux ça, un iPod. Et pourquoi est-ce que la nouvelle n'arrive pas à trouver sa place dans tout ça? Pourquoi est-ce qu'ici, il n'y a pas de lecture de nouvelles? Ça, il y a des gens qui m'ont fait remarquer qu'il n'y avait pas de lecture. Moi, je trouve que ce serait des moments géniaux d'avoir une lecture comme ça, d'un texte complet, sur un quart d'heure. Pourquoi est-ce que les podcasts, qui sont des choses passionnantes, ben finalement, il y a assez peu de gens encore en France qui ont le réflexe de décharger ça sur leur iPod pour écouter pendant un trajet en voiture, par exemple. Pourquoi est-ce que, au lieu de récupérer un quotidien qui est immense d'ailleurs, qu'on ne sait pas comment tenir dans le métro. Enfin, il y a des tas de choses que je ne comprends pas dans notre société. On est coincé sur une place de métro où on n'a pas de place et on est censé déplier un machin qui fait 1m20 de haut qu'on ne sait pas comment tenir sur ses genoux. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas tous les jours un petit recueil qui ferait 10 pages, qu'on mettrait dans son sac à main, qu'on lirait pendant son trajet, qui coûterait 2,50 €? Et puis ceux qu'on aimerait bien, on les garderait, et puis les autres, ben, on les donnerait, on les ferait circuler. Pourquoi on exploite si mal la nouvelle? Pourquoi est-ce que moi qui adore lire des nouvelles, la plupart du temps, je les trouve dans d'énormes entaux qui font 700 pages, qui coûtent 25 €? Ça ne devrait pas marcher comme ça, il y a quelque chose qui m'échappe.
Il y a peut-être un élément de réponse dans le fait que
Parle droit devant ton micro, Dréco, s'il te plaît. Merci.
Dans le fait que une nouvelle comme un roman, c'est un autre univers, et qu'on sait peut-être difficile de se dire je vais rentrer dans un univers qui va être très bref, et finalement l'investissement va peut-être pas me satisfaire. C'est peut-être ça la difficulté de la nouvelle. J'en sais rien, je pose la question.
Moi, je sais que la nouvelle, je trouve ça drôlement commode pour vulgariser une notion qui vient juste d'apparaître. Par exemple, quand Gérant tout d'un coup me prend l'envie folle d'écrire une nouvelle, il suffit d'aller voir Nature ou New Scientist. Vous trouvez un article sur, je sais pas, on vient de découvrir la vasopressine, c'est-à-dire l'hormone qui commande le sentiment parental. Ça vous dit pas grand-chose. Mais par contre, dès qu'on l'applique dans une nouvelle, on imagine une femme un peu frustrée qui donne ça à son amant. Donc tout d'un coup, pouf, il a plus envie de voir ses enfants. Puis après, elle lui donne le contre-traitement. Alors hop, il a à nouveau une envie terrible de voir ses enfants. Entre-temps, sa femme a divorcé, c'est l'horreur. Et donc, quand on... Toutes les nouveautés scientifiques appliquées dans une nouvelle connaissent un déploiement qui les rend extrêmement intéressantes. Et moi, j'aime bien qu'au lieu de me dire qu'on a découvert tel, tel et tel phénomène, on se fatigue à mettre en scène ce nouveau phénomène dans la vie courante, afin que je comprenne bien tous les tenants et les aboutissants de cette nouveauté. Et quelquefois, effectivement, une toute petite découverte, bien mise en scène par un bon écrivain, peut carrément donner le vertige. Ça, je trouve ça génial comme outil de vulgarisation.
Et ce qui est curieux, c'est qu'il y a une époque, en particulier dans les années 40, enfin, mais même avant, dans les années 30 à 60, où une grande partie des revues américaines et un certain nombre de journaux transformer des choses qui étaient des chroniques ou des comptes rendus de faits de société en textes narratifs, en nouvelles. C'est-à-dire que maintenant, dans les journaux, vous n'avez que des informations présentées sous une forme volontairement informative. Quelquefois, vous avez des points de vue, mais à l'époque, il existait justement tout ce travail de narration. Et dans les revues, en particulier scientifiques, il y avait à peu près systématiquement une nouvelle illustrative, justement, d'une nouvelle découverte ou de quelque chose, d'une tendance que l'on sentait, mais présentée sous une forme fictionnisation. Or, depuis 20 ans ou 30 ans, on se méfie de l'opération qui consiste à fictionniser quelque chose. On dit, on veut du reportage vérité, on veut du vrai de vrai. Même nos émissions de télé sont des émissions véritablement voyeuses. On met les choses là et on n'a aucun recul dessus, on ne fait aucun travail narratif. Et donc, nous avons perdu l'habitude de tirer de l'information d'un texte court qui raconte le point de vue de quelqu'un. Une nouvelle est par essence subjective, c'est à mon sens une de ses grandes qualités, mais la subjectivité n'est peut-être plus ce que l'on recharge. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est peut-être la fin de l'esprit critique. Voilà. Si tu dis qu'on ne met plus en scène les événements, peut-être que c'est la fin de l'esprit critique. Je ne sais pas.
Jean-Claude vient de relier la nouvelle à la science. Moi, ça m'ennuierait d'abord qu'on réduise les genres de l'imaginaire à la science. Mais je trouve que la nouvelle va mal globalement dans notre société. Enfin, il y a finalement très. Ce que tu disais sur les journaux ou les revues scientifiques s'applique aussi au quotidien. Il y a une époque où Le Monde publiait régulièrement une nouvelle. Paradoxalement, il me semble, n'est plus tellement utilisée. Quand on est auteur, c'est désespérant parce que les éditeurs disent, mais vous comprenez bien, la nouvelle, ça se vend pas. Donc, de toute façon, on ne va pas faire de gros tirages. Donc, de toute façon, ce n'est pas intéressant de les publier. Pourquoi ? Je ne sais pas s'il y a des réponses quelque part. Tom en a. Moi, j'aimerais bien savoir ce que Tom pense.
Prends un micro, Tom.
Tom Clay, qui est directeur de la collection science-fiction chez Bras Jaune.
Je pense que c'est comme les petits-enfants avec les repas. Ils aiment bien la viande, les hamburgers, les frites, mais ils n'aiment pas les légumes. Et pour eux, les nouvelles sont des légumes. Et ils sont petits et ils sont très variés. Et parfois, ils n'aiment pas. Ils disent « Oh, j'aime pas le chou-fleur » ou « J'aime pas les petits pois. » Pour eux, c'est comme ça, les nouvelles. Ils regardent ça, c'est petit, c'est pas un beefsteak. Et ils veulent du beefsteak, des romans. Malheureusement, je crois vraiment qu'il y a une réaction comme ça. Je trouve ça dommage aussi. Mais c'est ça la réaction qu'ils ont.
Disons que pour moi, quand même, le 21e siècle, et ça nous oblige, ça va être la deuxième partie du débat, à réfléchir peut-être à la façon dont on raconte, mais le 21e siècle et la fin du 8e siècle se traduisent véritablement par la perte de « je dis quelque chose sous forme d'une fiction » pour dire « je dis quelque chose sous la forme de quelque chose qui ressemble véritablement à une image prise sur le vif ». Même si vous y réfléchissez, les feuilletons de télé qu'on regarde sont de plus en plus des feuilletons de télé du style presque cinéma-vérité, de voilà comment ça se passe dans une équipe d'experts, je dirais, médicaux, voilà comment ça se passe dans un hôpital, etc. Et où la fonction de romance n'est là que vraiment en arrière-plan et qu'une grande partie du temps du feuilleton est quand même consacrée à la réalité logique de ce qui se passe, c'est-à-dire je ne suis pas en train de faire la cour à Dupont, mais je suis en train de faire une opération ou je suis en train, derrière un microscope, d'observer ce qui se passe. Donc on a véritablement cette perte de désir d'une histoire pour avoir une image de ce qui se passe à côté. Et est-ce que, alors au moment-là, puisque nous sommes amenés tous à écrire des nouvelles, est-ce que déjà un certain nombre d'entre nous utilisons cette réflexion en disant « mes nouvelles vont être des choses qui sont des reflets bruts de la réalité et non pas un travail narratif pour faire passer une idée par l'intermédiaire d'une histoire, d'une narration. »
Moi, je voudrais parler d'une nouvelle que j'ai lue, que j'ai absolument pas écrite, qui pour moi est la plus belle histoire d'aventure qui ait jamais été écrite. C'est « The Most Dangerous Game » qu'on a traduit par « Les chasses du comte Zaroff ». En 12 pages, il y a un type, il se penche sur un paquebot pour rattraper sa pipe, il tombe dans l'eau. Il arrive sur un rivage, il y a un russe blanc en tenue, on est dans les Caraïbes, en tenue complète de cosaque, qui l'emmène dans un château. Là, il est accueilli par le comte Zaroff. Il se trouve que celui qui est tombé par-dessus le bateau est le plus grand chasseur du monde. Zaroff est l'autre. Il dîne, il boit du champagne, et Zaroff lui dit que bon, il a un péché mignon, c'est de chasser les humains. L'autre lui dit, oh ben non, ça se fait pas. Mais si ça se fait, mais non, enfin, on peut pas. Ben, je vous le prouve. Et il y a une chasse à l'homme pendant 4 pages. Et ça se finit que l'un des deux gagne. En 12 pages, c'est la plus belle histoire d'aventure qui ait jamais été écrite. Et effectivement, par rapport à ce que tu dis, là, on se paye le luxe de... Enfin, c'est le merveilleux, c'est comme le prisonnier de Zenda. Et ce genre de nouvelles qui pouvait valoir un roman, en impression, en shoot d'émotion, ça vaut 300 pages. Et ce genre de nouvelles, ça se perd, c'est vrai.
Il faut se rappeler aussi une chose d'un point de vue pratique. Le cinéma, jusque dans les années 50, faisait des films à partir de nouvelles et non pas à partir de romans.
Ouais.
Fitzgerald, par exemple, a vendu, je crois, quelque chose comme 70 de ses nouvelles comme scénario de films. Et c'était des nouvelles de 25 à 30 pages. Les chasses du comte Zaroff, dont tu parles, a fait l'objet d'un film, c'est évident. Un certain nombre de westerns sont en fait tirés de nouvelles de 15 pages. Et maintenant, quand on fait un film, le minimum qu'on prend, c'est Le Seigneur des Anneaux, j'exagère à peine. Donc on a véritablement changé complètement notre rapport à la masse de narration. C'est-à-dire que dans un cas, le lecteur prenait et extrayait, dépliait à l'intérieur de son esprit un texte court. Maintenant, au contraire, il survole et condense un texte long.
Moi, je ne sais pas si le roman est la forme dégradée de la nouvelle, mais ce qui est certain, c'est que, pour revenir aux séries télé, le moment où une série télé qui est très bonne commence à devenir pas bonne, c'est le moment où on sent que les scénaristes, ils ont pu une idée géniale à chaque épisode, et du coup, ils enchaînent sur une idée, un espèce de scénario de fond qui se dilue jusqu'à, en fait, Extinction des Feux et mort de la série. Là, je pense à la série X-Files, qui était excellente, Il y avait des idées scénaristiques à chaque épisode génial. Je pense à un épisode comme Sports qui était fabuleux. Et puis, ils ont commencé à introduire l'histoire de Mulder qui cherche sa sœur. Et on sentait l'imagination des scénaristes s'appauvrir, faut bien dire, au bout d'une dizaine d'années. Et ça a fini en quenouille à s'épuiser sur cette espèce d'idée de fond qui n'avait absolument pas la force des inventions scénaristiques de chaque épisode, dont on sentait qu'effectivement, c'était vraiment des idées de nouvelles, c'est-à-dire des idées uniques, des idées chocs extrêmement bien vues, et qui à elles seules engendraient tout un univers, qui à la fin de l'épisode devait être complètement résolu, absorbé et terminé. Voilà. Alors c'est peut-être pas, on peut quand même pas dire qu'un roman c'est uniquement une nouvelle très délayée. On n'oserait pas aller jusque-là.
Non, mais l'obligation dans une nouvelle de terminer en 15 pages ou 20 pages quelque chose qui doit fournir suffisamment de choses pour qu'à la limite on n'ait pas à réclamer quelque chose derrière, ça oblige à un sacré travail narratif qui est très compliqué. Et Sylvie, par exemple, qui écrit beaucoup de textes courts, toi, comment sens-tu qu'une nouvelle se boucle ?
Si ta question est comment elle se boucle au sens comment elle se termine... En fait, moi, quand je me mets à écrire une nouvelle, en gros, c'est qu'elle est à peu près tout entière dans ma tête, que l'idée est suffisamment forte pour que la narration et la mise en scène et le tout se soient, que tous les éléments se soient imbriqués les uns dans les autres d'une manière qui sonne juste, que... Et je me mets à l'écrire pratiquement au moment où elle existe potentiellement. Donc, après, la question comment savoir si elle se boucle, eh bien, c'est en amont. Moi, personnellement, je ne peux écrire une nouvelle que si je parle de quelque chose qui m'intéresse vraiment et qui me paraît vraiment important. Alors, ça peut être des choses qui, si je les évoquais, paraîtraient complètement anecdotiques et futiles. Peut-être, mais pour moi, elles ont de l'importance à un moment donné. Et puis, moi, j'aime bien écrire sur les choses que je comprends pas bien, que je maîtrise pas tout à fait, qui ne sont pas complètement résolues. Et puis, le fait de les raconter ne résout rien, mais ça permet de les prendre autrement. C'est plus amusant. Ça permet de jouer avec des idées, avec des émotions, avec des doutes. C'est extrêmement ludique. Même si ça demande beaucoup de précision et même s'il faut s'impliquer complètement dans ce qu'on fait, à mon avis, pour que ça marche, c'est quand même un jeu complètement extraordinaire. Voilà.
Oui, on entend parler beaucoup de jeux là, en ce moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à peu près tout le monde a cité le terme. Le problème, c'est qu'on arrive maintenant au 21e siècle avec la science-fiction qui a évolué, qui a vécu un certain nombre d'évolutions, en particulier ces 20 dernières années, qui a à la fois pénétré dans l'inconscient du grand public, puisqu'il y a un certain nombre des idées forces de la science-fiction que vous trouvez dans les pubs pour voitures ou dans les boîtes de jeux pour enfants. Et est-ce que le jeu est en train de changer de nature ? Est-ce que les règles du jeu sont les mêmes ? Est-ce qu'on peut encore, c'est une question très provocante, écrire en 2010 la nouvelle de science-fiction qu'on aurait écrite en 1980 ? Qui a envie de s'embêter à ça ? Tiens, Jeanne.
Non. Si, si.
Moi, je vais dire un truc là, mais dans mon recueil, puisque Jean-Claude en parlait, il est sorti hier, il y a des nouvelles que j'ai écrites en 85 à côté de nouvelles que j'ai écrites l'année dernière. Et moi, je trouve qu'elles vont bien ensemble. J'ai peut-être un peu changé, mais ma manière d'écrire, pas trop, je pense.
Ta manière n'a pas changé, mais les nouveaux auteurs, je pense à des gens qui s'appellent Ted Chiang, je pense à des gens qui s'appellent Kelly Link dans Le Fantastique aussi, il y en a un certain nombre. Quelqu'un comme Alden Kahn, par exemple, dans ses nouvelles aussi. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui arrivent en disant non, la nouvelle telle que vous la connaissiez, c'est plus ça, on va faire tout à fait autre chose. Et est-ce qu'un certain Xavier Mauméjean, avec La fin dans le monde, n'a pas aussi traité, typique du monde, enfin n'a pas traité une forme de nouvelle, une idée de nouvelle, une manière de raconter justement particulièrement glaçante qui serait tout simplement pas passée il y a 20 ans.
Oh non, je crois qu'au contraire, ça avait déjà été fait, elle est très classique. Hein. Non, dans sa forme, elle est extrêmement classique, elle se voulait classique. J'ai même J'ai même utilisé des expressions vieilles, par exemple des chaussures de sport, des choses comme ça. Je voulais qu'elles soient intemporelles. Et au contraire, j'ai utilisé des tas d'expressions qui sont du registre des nouvelles des années 60. Et bah, de son, nouveauté pour nouveauté, c'est pas spécialement gage de qualité. Hein. Et puis je trouve pas que Ted Chiang, qui est un remarquable noveliste, soit spécialement novateur au sens où il arriverait, les gars, je vais faire un truc nouveau. C'est extrêmement classique et très beau ce qu'il fait. C'est très classique, Ted Chiang. Mais dans le bon sens du terme, la facture est très classique.
D'accord. Donc tu penses qu'on peut continuer à écrire pratiquement ad vitam aeternam avec un certain nombre de factures et de recettes éprouvées qui remontent à Fitzgerald, qui remontent à Maupassant, etc. Alors qu'à côté de ça, un certain nombre d'auteurs, je pense à Ballard est quand même arrivé en disant on ne peut plus écrire une nouvelle de la même façon. Et dans la préface de son recueil qui vient de sortir aux éditions Tristam, il dit l'avantage aussi d'une nouvelle, c'est qu'il n'existe pas de roman parfait, alors qu'on peut considérer qu'un certain nombre de nouvelles sont des nouvelles parfaites.
Je suis en train de le lire, le recueil. Je ne sais pas ce qu'il dit de ces nouvelles, mais j'ai lu ces nouvelles. Et certaines sont extrêmement classiques. Il y a au moins deux nouvelles de ce recueil qui pourraient être des épisodes de Twilight Zone, etc. Je pense que... on a vu le lattage assez grave que s'est payé la science-fiction française, notamment, il y a 20 ans environ, à vouloir absolument renouveler la forme et tout ça. Et ça a été, bon, je ne serais même pas capable de lire 90% de ce qui a été fait à l'époque. Non, je pense que certaines choses extrêmement classiques sont certainement beaucoup plus novatrices que la recherche de l'effet à tout prix qui, dans 10 ans, sera vieux. Hein.
Donc tu dis novatrice, mais alors à ce moment-là, le novateur, tu le mets où ? Dans une nouvelle. Qu'est-ce qui fait que tu peux te dire, tiens, cette nouvelle, elle est vraiment de maintenant ou elle est intemporelle ? Est-ce que justement, on a envie qu'une nouvelle soit de maintenant ? Est-ce qu'on l'a
envie ? Non, pas pour moi. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des chasses du comte Zaroff. C'est que c'est la nouvelle totale, c'est l'aventure totale et elle est tout aussi... Dès lors qu'elle est bien écrite... qui c'est pas vieilli, etc. C'est pour ça que, par exemple, même pour les romans, on peut retraduire certains textes. Il suffit, au lieu de mettre « Et la môme, tu veux une cibiche », de réactualiser la traduction, et ça reste des textes extrêmement, extrêmement forts, je pense. Enfin, je sais pas, la nouveauté à tout prix, ça m'intéresse pas.
Et même au point de vue thématique, tu ne penses pas qu'il y a des choses maintenant...
Il n'y a pas de nouveau thème. Trouve-moi, Jean-Claude, un nouveau thème. Il y a des variations, il y a des digressions, mais ce serait quoi un nouveau thème ?
Moi, je repense à quand j'ai commencé à lire des nouvelles de science-fiction, c'était dans les vieux fictions des années 50, qu'avait collectionné mon père. Et donc, j'ouvrais la fiction des années 50, et il y avait Asimov, Aldiss... Enberg, Lewis Padgett, traduit par Vian, etc. Et je trouvais ça normal, j'avais l'impression que le niveau littéraire était un niveau normal, quoi. Après, quand j'ai lu autre chose, j'ai vachement déchanté. Mais elles sont excellentes, elles sont toujours parfaitement lisibles. Alors effectivement, on peut peut-être discerner que c'est des nouvelles des années 50 à cause du thème. Il y avait plus de robots maintenant qu'à notre époque. À notre époque, on va peut-être plus parler de pollution et de problèmes écologiques. Et logiquement, dans 50 ans, même nos nouvelles-là seront encore lisibles, sauf si on a fait un bond tel que la Terre est devenue une espèce de paradis où il n'y a plus un gramme de pollution. Mais a priori, dans 50 ans, on se posera encore des questions sur la robotique et des questions sur l'écologie. Donc il y a des thèmes qui sont plus abordés à une époque ou à une autre, mais il n'y a pas de raison que ça vieillisse au point de n'être plus du tout d'actualité pour les générations suivantes.
Oui, parce qu'au fond, la singularité, c'est jamais que les robots.
Et toi, justement, tu as été occupé de la nouvelle écologie
Donc, Jeanne Desbas, avec sa nouvelle-là, La vie anglaise du continent, a fait effectivement à la fois un travail sur le transfert d'intelligence et sur l'écologie et sur le rapport au monde d'un certain nombre de multinationales, qui sont vraiment des sujets tout à fait d'actualité, des sujets porteurs, mais traités avec, je dirais, un classicisme et une élégance qui forcent admiration. Donc, tu n'as pas défini une forme pour aller avec ton fond.
Non, parce que la forme classique était tout à fait valide. Elle est classique pour une bonne raison, la forme classique. Et puis, de toute façon, le thème écologique de la vieille anglaise n'est pas la vraie question de la vieille anglaise. La vraie question de la vieille anglaise, c'est jusqu'où on a le droit d'aller, même quand on a raison.
Bon.
Et je n'y ai pas répondu.
Ça, c'est intéressant. Le nombre de gens qui, à cette table, expliquent qu'ils écrivent des nouvelles pour poser des questions, mais qu'ils n'y répondent pas, est tout à fait fascinant. Et est-ce qu'au niveau du public, puisqu'on va... Oh, ça dépend. C'est une des questions qu'il faudra poser vers le public. Mais est-ce que, dans les cinq minutes qui nous restent, est-ce que vous, vous attendez d'une nouvelle qu'elle ouvre des pistes à charge pour vous de continuer sur ce chemin-là, ou est-ce que vous voulez qu'elle soit bien fermée comme un bonbon avec une coque de chocolat qui fond dans la main? Qu'est-ce que vous attendez réellement d'une nouvelle, vous, le public?
Moi, je dirais que j'attends justement qu'elle ouvre les portes, mais qu'elle ne les ferme pas, ne serait-ce que pour un motif de base, c'est que la nouvelle ne peut pas conclure comme une expérience scientifique. Ce n'est pas une expérience scientifique. La solution proposée par la nouvelle ne sera pas valide. Ne sera pas validée par l'expérience.
Parce que tu crois que pour le roman, c'est valide ?
Je ne dis pas pour l'homme. Mais c'est valable aussi pour le roman, bien entendu. Je n'ai pas séparé la nouvelle et le roman dans cette remarque. Dans les deux cas, j'attends l'ouverture d'une piste, je n'attends pas sa fermeture.
Alors que, par exemple, un certain nombre d'auteurs de l'âge d'or prend Asimov, la série des robots, les nouvelles des robots, étaient de nouvelles justement qui posaient une problématique, mais qui d'une certaine façon apportaient une réponse à chacune d'elles. Et donc, il s'agissait de nouvelles, entre guillemets, terminées. Mais ça veut dire que le travail du lecteur n'est pas le même. Dans un premier cas, il y a une problématique et donc la nouvelle continue à travailler dans sa tête et c'est à lui de faire une partie du travail. Et dans un deuxième cas, la nouvelle lui apporte une solution satisfaisante et donc constitue un bonbon que l'on termine et puis qu'à un moment donné, quand il est terminé, dont il ne reste plus rien.
Non, mais la nouvelle, ça peut être aussi un... Enfin, pour moi, la nouvelle, c'est clair, c'est un truc que je bidouille, mais je peux le faire 40 fois pendant 10 ans, jusqu'à ce que je trouve ça parfait, et que logiquement, le lecteur doit en sortir en disant « Ah, ben, j'ai passé un bon moment, tiens, c'est ma station, quoi. » Maintenant, peut y avoir aussi des nouvelles comme celle de Xavier, La fin du monde, ou au contraire, on referme en disant « Je suis contente de ne pas vivre dans ce monde-là, comme ce métro est beau et magnifique. » Il y a ça aussi.
En tout cas, pour répondre à Georges, enfin, j'ai l'impression de répondre à Georges en disant ça, si tu comptes sur moi un jour pour donner une réponse, ça sera jamais. Je ne validerai pas l'expérience parce que, personnellement, je n'ai pas pour mission d'éclairer l'humanité. Peut-être de lui faire plaisir, mais de l'éclairer certainement pas. Voilà.
Moi, j'ai l'impression que toutes les nouvelles donnent des réponses très, très locales, parce que sinon, elles ne sont pas finies. Mais que la question, ce n'est pas est-ce que ça porte une vérité, c'est... Est-ce que c'est transposable ailleurs? Est-ce que ça veut dire quelque chose dans notre monde à nous? De quelle façon? Mais il y a toujours une résolution et une vérité qui est celle, la vérité du texte.
Une vérité dramatique, mais pas une vérité physique. Et il faut bien séparer les deux.
Donc la nouvelle du 21e siècle, elle va allègrement continuer sur des formes déjà bien éprouvées, sauf s'il y a des gens qui ont envie de jouer avec. Il y aura encore de la part des auteurs une certaine quantité de jeux et probablement l'occasion de mettre en scène et d'expérimenter tout un tas d'idées novatrices tirées de ce qu'on regarde autour de soi ou de nos propres envies. Parce que s'il y a une chose qui est certaine, c'est que nos envies se renouvellent heureusement plus vite que la littérature, ce qui fait que la littérature aura toujours un petit peu d'avance sur le réel. Voilà. Ben écoutez, je vous remercie. Je pense qu'on a atteint l'heure fatidiquement.
Il n'y a pas d'autres questions ?
Et non, on va laisser la place au public, justement, pour nous poser des questions à nous. Par rapport aux nouvelles, vous attendez quoi au point de vue nouvelle du 21e siècle ?
Est-ce que la nouvelle, c'est par une chanson et le roman,
l'opéra ? Oh, c'est beau ! Ouais, non, mais c'est hyper dur de faire... Alors, c'est vrai qu'on peut passer de la nouvelle au roman, notamment dans un cas, si on écrit un texte, deux textes, trois textes, quatre textes, bon, c'est que des nouvelles, et on s'aperçoit qu'on tourne toujours autour du même piquet. C'est très dur d'échapper à son propre imaginaire et on finit par obtenir une espèce de masse de textes qu'on va transformer, on peut transformer en roman. Ça, c'est le gros problème, c'est d'échapper à un moment à son propre imaginaire. Car souvent, malheureusement, dans sa petite tête, tout est lié. Quelquefois, j'aimerais bien changer de cerveau pour changer de façon de voir les choses, de coloris, etc. Mais par contre, il y a quand même une énorme différence, oui, entre la nouvelle et le roman. C'est exactement la même différence qu'entre le sprint et la course de fond. C'est-à-dire, c'est pas les mêmes buts, c'est absolument pas le même souffle, c'est pas le même entraînement, c'est pas les mêmes muscles, c'est pas les mêmes gens qui arrivent à l'un et à l'autre. Quoi. Là, c'est un petit peu comme comparer à ce moment-là l'haltérophilie et la danse classique. Un banana split et une pêche melba, ou carrément un banana split et une entrecôte marchand de vin.
Parce que je voyais que Xavier était silencieux et ça me contrariait, parce que je vais poser exactement cette question il y a un an ou deux, à propos de la Vénus, comment il était passé de la nouvelle au roman ou l'inverse. La réponse avait été très intéressante, alors il pourrait peut-être la redire pour tout le monde.
Alors, à la demande du public, je vais vous refaire mon vieux sketch, la Vénus. Ben, en fait, j'ai écrit une nouvelle. Ensuite, ça ne m'a pas paru convaincant. J'aimais bien la nouvelle, elle était bien, mais j'ai l'impression d'avoir pas fini. J'ai eu l'occasion d'en faire une pièce radiophonique. Donc là, ça a été un régal à faire pour les dialogues. En plus, comme c'était le 18e, il fallait que ça soit mordant, piquant, etc. Donc je me suis retrouvé avec une trame globale qui était fournie par la nouvelle. Des dialogues beaucoup plus incisifs dans la pièce radiophonique que dans la nouvelle, et dans un troisième temps j'ai pu exploiter l'univers global dans le roman, mais effectivement ce sont des variations sur un même thème, mais moi ça me paraît normal, c'est-à-dire qu'on l'accepte des peintres, on accepte que les peintres puissent faire 4 ou 5 tableaux sur un même thème ou des périodes ou des choses comme ça. Donc c'est ce qui m'est arrivé là aussi. Je crois que c'est la Vénus qui rassemble le plus de variations, mais ça m'est arrivé pour Lilliputia, il y a eu aussi une pièce radiophonique et un roman. Il m'arrive, oui, pour certains thèmes, de ne pas les épuiser en une seule fois, ça c'est vrai. Et du coup, la nouvelle, le roman et la pièce fournissent des modes de narration, je te passe le micro, des modes de narration et d'approches différentes.
Et
là, hop,
tiens. Et youpi. Oui, oui, et en fait, ouais, c'est pas bête. Je sais que mon premier bouquin, Blanche-Neige et les lance-missiles, j'avais commencé ça parce que je voulais faire une nouvelle où je me fous de la gueule des contes de fées, et là, j'en suis au 4e tome. En fait, j'ai découvert que j'avais une grosse névrose à ce niveau-là, quand une nouvelle, c'était pas épuisé, en un tome pas épuisé, et là, c'est toujours pas fini. Ouais. C'est une sorte de psychanalyse, en fait, une nouvelle. Une idée.
Moi, il m'est arrivé une chose abominable, puis ça continue à m'arriver de temps en temps. Des fois, j'écris un texte dont je suis très, très contente. Et puis, on me dit, ah, ça, c'est une bonne idée, mais en fait, tu ne vas pas la gâcher en faisant une nouvelle, il faudrait que tu écrives un roman. Et quand on ne sait écrire que des nouvelles, c'est quelque chose d'absolument épouvantable. Alors, on peut glisser vers la novella. Je crois qu'on n'a pas tous, ceux qui ont le choix, plus que moi, savent si une idée est adaptée à une nouvelle ou à un roman. Quand on lit, on se dit ça aurait pu être plus court, ou bien ça mériterait d'être approfondi, mais je suis pas sûre qu'on réagisse tous de la même façon sur une idée particulière. C'est-à-dire que à chaque fois que j'ai écrit un texte dont certains m'ont dit ça aurait été bien de lui donner de l'ampleur et d'en faire un roman, j'ai eu à côté d'autres lecteurs qui m'ont dit elle a la longueur qu'il faut pour l'idée que c'est. Elle aurait, si tu l'avais étirée, elle aurait perdu en puissance et finalement elle aurait été appauvrie. Donc je crois que c'est pas l'auteur qui fait le plus gros du travail sur la vraie décision de quelle est la bonne longueur pour un texte et la forme à lui donner. Finalement, c'est le lecteur qui l'a. Moi personnellement, je préfère Des fleurs pour Algernon à la nouvelle initiale de Daniel Keyes qui s'appelait Charlie. Mais je connais des gens qui préfèrent la nouvelle Charlie.
C'est très très vrai ce que tu dis. En plus, moi il m'arrive des fois quand je lis un roman, de perdre le plaisir de lire. À un moment, ça se détache. Et c'est le côté artisanal. Tiens, t'as réussi ton effet ou ce paragraphe, etc. Alors que la nouvelle, justement, parce qu'elle est courte, elle permet peut-être de conserver cette innocence de la lecture, y compris pour les auteurs. Enfin, il est plus difficile de voir des ficelles et du métier dans une nouvelle. Il faut être plus sincère, plus honnête que dans un roman où on peut utiliser des trucs et là, ils peuvent se voir.
Moi, j'aurais tendance à dire que pour moi, la nouvelle, c'est un petit peu comme une gorgée de vin. Vous avez des gorgées de vin qui sont longues en bouche et qui sont des choses qui vont se prolonger pendant longtemps après que vous ayez avalé. Vous en avez d'autres, au contraire, où le vin vous a explosé dans le palais, mais une fois avalé, il n'en reste pas grand-chose. Mais dans tous les cas, ce sont des choses qui ne donnent pas nécessairement envie d'une deuxième gorgée. C'est-à-dire que la première gorgée est tout à fait satisfaisante, le premier verre est délicieux, mais on n'a pas nécessairement envie de finir la bouteille. Pour moi, c'est ça aussi une bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui contient presque l'intégralité du cépage en 2-3 gorgées.
Quelqu'un qui vous dit que la nouvelle aurait été mieux sous forme de roman, c'est parce qu'il est plus habitué à une forme de roman ou parce qu'il a l'habitude de lire les deux et qu'il sent qu'il y a un potentiel en débridant l'imaginaire présent dans la nouvelle? Enfin, je prétends pas que l'imaginaire est bridé dans la nouvelle.
Non, mais c'est effectivement, je crois, la question qu'il faut se poser. Et moi, je suis persuadée que souvent, quand on fait la remarque à des novellistes, elle aurait pu devenir un roman, eh bien la remarque vient effectivement de lecteurs qui considèrent que le roman est la seule forme qui compte vraiment, que la nouvelle c'est anecdotique, qu'à la limite ça permet de découvrir un auteur, mais ça donne surtout envie de découvrir son vrai travail de romancier. Et il y a tout cet arrière-plan-là qui fait que c'est sans doute pas le texte tout seul qui suscite le jugement.
Excuse-moi Sylvie, il y a aussi l'approche optimiste qui consiste à dire je reprendrai bien une petite bourchée. Hein.
En tout cas, pour la novella, moi j'ai tout entendu. Ça aurait été mieux plus court, ça aurait été mieux plus long.
Il y a ça aurait été très mieux peu la même gens, longueur, mais écrit
très
différemment.
Très peu de gens qui m'ont dit c'est juste bien, surtout change rien. Voilà. Je pense que oui, bien sûr.
C'est lié aussi au fait que le lecteur du XXIe siècle a de plus en plus tendance à considérer que les choses doivent lui être livrées, je dirais, complètement, parfaitement, tel qu'il le veut. Ce qui est une chose absolument gênante. Il y a eu une époque où le texte courbait le lecteur à ses désirs, c'est-à-dire c'était au lecteur à s'adapter au texte. Le rapport de lecture que l'on avait, c'était qu'on apprenait la manière dont l'auteur nous parlait. Tandis que maintenant, on prend un livre en disant « je veux ça ». Et en plus, les éditeurs ont tendance à vous vendre le livre comme étant « ce livre est fait pour les personnes de 42 ans légèrement dyslexiques qui n'ont pas envie de lire plus ça ». Donc c'est vraiment le truc spécialement pour vous, quoi, à la limite. C'est l'objet de design, mais individuel.
Je pense quand même que s'il y a un bouleversement au XXIe siècle, on vient peut-être de le trouver, là, dans ce que tu dis, parce qu'on est quand même dans une culture du multimédia, de l'interactivité, du jeu vidéo, où c'est le joueur qui choisit le temps du jeu, le rythme du jeu, qui choisit un jeu plus ou moins temps réel, et où finalement la consommation culturelle est de plus en plus dynamique et de moins en moins passive et soumise au rythme du concepteur du produit. Donc c'est peut-être ça qui nous met aussi dans une position un peu étrange à ne pas savoir comment gérer ça.
Pour continuer sur cette question-là et boucler sur une chose qui a été effleurée tout à l'heure, on parlait de métro, on parlait du très grand journal, de l'iPod. Par rapport à la nouvelle en particulier, quelle serait votre approche, vous, par rapport à justement d'autres supports de lecture que le bouquin, que le papier, qui seraient des lecteurs électroniques qui s'adapteraient plutôt pas mal justement à des formats assez courts qu'on peut emporter partout et qu'on peut consommer finalement assez facilement?
En tout cas, moi, je pense que c'est l'avenir de la nouvelle, effectivement, le support électronique.
Moi, j'ai mis quelques nouvelles sur mon site en me disant comme ça, les gens, ils disent une page, puis ils voient s'ils aiment ou pas, s'il y a moins d'arnaques. J'ai jamais eu aucun retour dessus, quoi. Beaucoup plus sur tout ce qui est publié. Voilà. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est encore des vieux birbes, qu'on a beaucoup l'habitude de lire sur papier et que les générations suivantes, effectivement, se débarrasseront de cette gêne-là? Mais j'ai beaucoup plus de retours de mes nouvelles sur papier que des même très courtes nouvelles au format électronique.
C'est peut-être lié à la forme du site.
Il est peut-être un peu pourri, mais c'est pas une raison. Ouais, mais en fait, sur ce qui est imprimé, il n'y a pas marqué à la fin de la nouvelle, merci de me donner votre avis, la fois où vous me croiserez, j'ai telle tête, etc.
Faites-moi une fiche de lecture.
C'est ça, une fiche de lecture, oui, avec des, ouais. Des oui, non.
C'est sympa, on les oblige à lire des nouvelles, déjà ils n'aiment pas, et en plus ils vont nous faire un compte-rendu. C'est génial.
Moi, j'ai des nouvelles qui souvent sont vendues à 500, 600 exemplaires, parce que... Un petit éditeur, ça veut dire des petits tirages, sur lesquels j'ai des retours, des critiques, des tas de gens qui m'en parlent. Et puis à côté de ça, j'ai un texte qui a été mis sur un site sur lequel il y a eu, je sais pas, au moins 50 000 hits, beaucoup, beaucoup de consultations. Un site de la mairie de Reims qu'il avait mis en place pour Noël. Ben, jamais personne ne m'en a parlé. Je ne sais même pas si quelqu'un dans le milieu SF l'a lu. En tout cas, si quelqu'un l'a déchargé ou l'a mis de côté, ça n'a jamais suscité la moindre réaction. Donc, il y a sans doute une relation très différente au texte. Il ne devait pas compter pareil.
Par contre, il y a les nouvelles en podcast. Ça, moi, j'ai plus de Utopod et tout ça. J'ai plus de retours.
C'était gratuit.
Ah mais c'est hyper désespérant comme point de vue. Ça.
Mais ça arrive par exemple quand on publie dans un journal, il nous arrive de publier une nouvelle dans Le Monde, on est lu à 500 000 exemplaires, et le jour d'après, notre nouvelle enveloppe les fans de légumes au marché. Et à ce moment-là, l'objet étant effectivement jeté, personne ne les garde, on n'a rigoureusement qu'un retour. Ça c'est absolument classique. Quoi. Alors que le taux de diffusion immédiat, instantané, est très fort.
Il y a aussi Johan Elliott qui vient d'arriver au fond, il pourra témoigner. Il y a des nouvelles aussi qui sont, je pense à Zazimut, qui sont lues. On a participé l'un et l'autre à des anthologies jeunesse. On écrivait des nouvelles de science-fiction, de policiers. Chaque exemplaire était vendu à 10 000 exemplaires, ce qui est pas mal pour des petits recueils de nouvelles. Mais tout simplement, comme les lecteurs sont des enfants, il n'y a pas de relation. Donc on ne sait pas s'ils les aiment ou s'ils ne les aiment pas. Ça dépend aussi du public qui les reçoit, tout simplement.
Et quand on a la chance, effectivement, Sylvie le mentionnait, c'est une chose qui est quand même essentielle, d'assister à une lecture de nouvelles, et une lecture par quelqu'un qui lit bien, dans un contexte qui est bien, on a la chance d'avoir par exemple Claude Ecken, qui est un remarquable lecteur, il m'est arrivé d'entendre des textes des gens que j'avais déjà lus, de gens que j'aimais, et de les retrouver transcendés et magnifiés par cette lecture-là, et de ne jamais oublier le texte qui reste toujours associé à une voix, à un phrasé. Donc on peut très bien avoir des moments absolument magiques où on est 30, 40, 50 à peine, mais sur un texte qui va nous rester pendant des années. Bon, bah écoutez, je crois qu'on nous avait demandé d'arrêter à 3h30. Il doit être 3h30, si je ne me trompe, ou à peu près. Il a été 3h30. On a peut-être le temps pour une dernière question, la dernière de Der. Qui est-ce qui veut finir? Non? Ah, si, il y en a une. Voilà.
Moi, je voudrais juste revenir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure à propos des réponses apportées par la science. Donc on disait que la nouvelle allait poser des questions et jamais apporter de réponses. Dans les articles scientifiques, la plupart du temps, les scientifiques n'apportent pas non plus de réponses. Ils se contentent d'écarter l'erreur pour se rapprocher de la vérité. Et je pense qu'en ce sens, la nouvelle va avoir le même rôle d'orienter la réflexion du lecteur pour lui permettre peut-être de réfléchir sur un sujet donné, mais que dans tous les cas, quand bien même l'auteur apporterait lui-même une réponse à la question posée, à sa nouvelle, on ne pourrait pas parler d'une nouvelle finie, étant donné que ce serait une réponse partielle, comme un scientifique qui conclut lui-même qu'il a raison, alors qu'il s'est juste contenté d'écarter une erreur. est-ce qu'on peut vraiment parler d'une nouvelle finie en sachant que de toute façon il y aura autant de visions de cette nouvelle et de réponses possibles qu'il y aura de lecteurs?
Ouais, je sais pas, tu...
Oui, il y a des nouvelles finies quand même, parce que il y a tout simplement des nouvelles qui ont été écrites pas avec cette volonté d'apporter une réponse. Il y a vraiment un moment où tu sens qu'elle est finie, elle est achevée même. C'est une clôture, tout le fond, la forme, c'est ce que disait Catherine, on le sent. Mais elle est finie tout simplement parce que il n'y avait pas pour but d'apporter une question, une réflexion. Il y a des choses comme ça qui sont des objets en soi, qui se suffisent, qui n'appellent pas à rendre le lecteur plus intelligent ou moins intelligent, ou qui ne renvoient même pas à l'auteur de la nouvelle. Il y a des choses qui s'imposent comme ça et elles sont vraiment achevées, là. Enfin, je le pense.
Oui, enfin, en conclusion, écoutez, moi je suis en tout cas fasciné parce que je m'attendais très naïvement à me dire que le 21e siècle et le fait que la science-fiction est déjà un siècle et qu'elle est, je dirais qu'elle soit passée par un certain nombre de phases, de métamorphoses, d'éléments de réflexion, d'approches narratives, qu'elle ait intégré et agrégé tout un tas de choses, qu'elle se soit mêlée au réel, que tout ça, ça allait changer notre rapport au texte court, changer nos demandes. Et en fait, visiblement, de la part des auteurs qui sont là, la réponse est non. Et le désir de continuer à raconter des histoires avec des formes qui sont des formes classiques et qui sont des histoires qui vont nous permettre à un moment donné de mettre un petit coup de projecteur sur un endroit qui n'avait pas été vu auparavant, ben ça reste encore la motivation de base et ce qui va produire les textes que nous ferons. Et permettez-moi de dire qu'à titre personnel, je trouve ça merveilleux. Voilà, je vous remercie. Maintenant, donc si vous voulez, oui c'est maintenant normalement, si vous voulez aller voir ce, en in real life ce que donnent les textes des auteurs, ben, c'est maintenant.